Alors, si je suis là, ce n'est pas parce que je sais, c'est simplement parce que mon cœur, c'est que l'unité est la priorité. On ne peut rien faire sans l'unité. Alors, je vais vous partager un petit peu. On m'a demandé, j'ai un programme, donc il faut que je le respecte. Parce que moi, je suis bavard, alors après, je m'en vais dans tous les sens. En fait, ce qui me préoccupe depuis que je travaille à la formation de dirigeants avec Pierre, c'est qu'en fait, je vois la richesse des personnes qui peuvent s'exprimer par rapport à la pauvreté des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer. Et en fait, je vous avais eu un petit papier là. C'était marqué quoi dessus? Je suis l'Église. Je suis l'Église. Je suis l'Église. Est-ce que je suis bien l'Église tout le temps? C'est un petit peu ça. Et puis après, c'était marqué quoi en dessous? Nous sommes son corps. Et Paul, il a bien expliqué que s'il nous en manquait un bout, il y a quelque chose qui ne va pas. Et un corps, il a différentes fonctions, il a différentes, j'allais dire, spécificités. Mais tous dans un corps sain fonctionnent dans un même but. Si c'est marcher, si c'est manger, si c'est réfléchir, si c'est sauter, si c'est aimer, si c'est faire tout ça, le corps a besoin que l'ensemble fonctionne. Et moi, mon cœur, c'est l'unité. C'est pas, j'allais dire, c'est pas recevoir quelque chose qui passe pas au travers de moi avec ce que je suis et que je redonne pas. Le royaume de Dieu, c'est je reçois et je donne. Donc, quand il n'y a pas cette fonction de redonner, pour moi, quelque chose manque. Et ce matin, ce qu'on voudrait, c'est que nous parlions ensemble de tout ce qui nous tracasse, de tout ce qu'on ne comprend pas, qu'il y ait vraiment un échange. Un échange parce que chacun de nous a une partie de la vérité. La vérité, elle n'est pas à la personne qui est là. La vérité, elle est en nous, parce que nous sommes l'Église. Et Dieu l'a disposée dans son Église comme il voulait chaque personne. Et donc, on doit faire ça ensemble. Alors, je vais vous donner quelques informations pour évacuer un peu, j'allais dire, ce poids qui est dans les différentes conversations que j'ai avec des personnes, ce poids sur ces nouvelles structures. Ça me contrarie un peu qu'en fait, ce soit comme pour moi, je ressens ça comme une diversion. Alors que, par exemple, on ne discute pas de la matière du pupitre. Est-ce qu'il devrait être en bois? Est-ce qu'il devrait être transparent? Non, on s'en fiche. L'important, c'est qu'il puisse tenir un papier, une Bible, et qu'il serve à quelque chose. Donc, ce qui a été proposé dans les différentes structures, c'est des outils. Aujourd'hui, on a avancé un peu, mais ça reste des outils. Ce n'est pas le but profond de Dieu. Le but profond de Dieu, c'est que mon cœur entende ce qu'il me dit et que je fasse ce qu'il me dit. Cette salle de culte, elle va rester salle de culte, puisqu'on ne peut pas faire autre chose. Elle va rester à des activités propres au culte. Par contre, on a d'autres surfaces qui sont assujetties à la taxe foncière, qui peuvent être utilisées pour l'association culturelle, pour la future association famille protestante, pour la passerelle, pour tout ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est anecdotique. C'est des problèmes techniques qu'on doit régler. Ça ne doit pas être notre focalisation, ni quelque chose qui nous encombre la tête. Des choses qui se mettent en place. Alors, l'association, ça peut servir à deux choses, à inciter quelqu'un à construire un projet ou à avoir un modèle, ou simplement transposer ce qu'il fait déjà. Mais ce n'est pas le but en soi. C'est un outil, c'est comme ce pupitre. Moi, je ne m'en sers pas. Pourtant, je vous parle. Mais je suis bien content qu'il y ait mon papier, parce que j'ai écrit gros, mais. Donc, toutes ces choses, elles sont en cours, mais c'est annexe. Par contre, on a demandé une petite chose, c'est que, comme on l'a vu la dernière réunion, on va dire, que dans l'association cultuelle, ces fonds n'étaient pas disponibles pour faire autre chose. Donc ce qu'on propose, c'est qu'on fasse une répartition de nos dîmes. Moi, je proposerais un tiers à l'association cultuelle, deux tiers à l'association culturelle, afin de préparer des fonds pour qu'après, on puisse faire quelque chose. Parce que Paul, il dit que la générosité, elle est bien dans la mesure où elle a quelque chose à donner. D'accord ? L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, que ce soit au travers d'une association culturelle, une coopérative, ma propre vie, c'est l'œuvre de Dieu. D'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Bon, parce que je suis un ambassadeur, là. Après j'ai mes patrons, ils vont... C'est pareil pour les réponses à projets. Nous avons tous des projets. Et bien souvent, nous ne les connaissons pas, parce que nous n'y réfléchissons pas, parce que nous ne pensons pas à notre appel, notre destinée, d'une manière claire. Chacun a des dons. Ces dons, c'est, vous savez, ce truc-là, c'est trop petit pour vos dons. Par contre, le monde à l'extérieur, il peut nous paraître trop grand. Donc pour ça, il faut qu'on s'entraide, qu'on partage. C'est aussi ça que Dieu veut amener dans l'Église, c'est-à-dire une conscience de ce que je suis l'Église, et donc est-ce que l'Église de Jésus-Christ, elle est inactive ? Elle est forcément active. Alors aussi, la communauté, elle est là pour donner des appuis, donner des aides, donner des encouragements, donner des corrections. Elle est là pour que chacun accomplisse son ministère. Alors ce matin, on va réfléchir sur quelques versets ensemble. Donc ça, j'ai fini pour les informations, on va dire, classiques. Oui, j'en ai pas oublié. Est-ce que tu peux mettre Jean ? Non, Jean 3. Jean 3. Versets 5 à 8. Alors, vous savez, c'est l'entretien avec Nicodème. Donc Nicodème, est-ce que c'était un bon chrétien ? Est-ce que c'était quelqu'un qui connaissait bien la parole de Dieu ? Est-ce que c'était quelqu'un qui s'appliquait à obéir ? D'accord. Bon, par contre, quand Jésus lui parle de choses de l'esprit, il est un peu embêté. Alors Jésus lui dit, je te dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui nous intéresse... Ce que Jésus répond, ce n'est pas un problème de culte ou d'autre chose, c'est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, ça se manifeste à l'extérieur de nous, au travers de nous, il est en nous. Alors, le verset d'après, ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. On est tous d'accord avec ça. Donc, qu'est-ce que Dieu veut faire en nous ? C'est nous faire naître de nouveau dans une dimension qu'on n'a encore pas expérimentée. C'est ce chemin-là qui nous amène. C'est pas autre chose. Verset d'après. T'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Parce qu'en fait, nous, on a l'impression qu'avec notre intelligence, notre désir et tout ça, on a la capacité d'amener le royaume de Dieu. Et parfois, c'est un peu illusoire. Verset d'après. Donc là, il parle du Saint-Esprit, de l'action du Saint-Esprit. Donc le vent souffle où il veut. T'entends le bruit. Tu sais pas d'où il vient ni où il va. C'est le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Alors moi, je nous pose la question, est-ce que notre vie, elle n'est pas un petit peu trop cadrée ? Est-ce qu'on lui a donné cette liberté de nous faire parler quand on n'a pas envie de parler, de nous faire agir quand on n'a pas envie d'agir, de nous faire changer quand on n'a pas envie de changer ? De nous faire prendre des risques quand on n'a pas envie de prendre des risques. En fait, nous, on aime bien maîtriser les choses. On aime bien que les choses soient cadrées. Donc c'est en ça que la formalisation d'associations ou de choses peut être un danger si on pense que c'est la solution. La solution, c'est que l'esprit m'attrape et que les autres en entendent le bruit. Même si je ne sais pas d'où il vient ni où il va. Donc on ne va pas mettre en boîte le Saint-Esprit. Dans l'histoire de l'Église, chaque fois qu'on l'a mis en boîte, ça a été des catastrophes. Continue, verset d'après. Et en fait, nous, on est tous des gens évangélistes, charismatiques, on sait tout ça, on est tous d'accord. Mais en fait, on répond toujours avec cette question-là. Comment ça peut se faire? Comment ça peut se faire? Est-ce que ça peut se faire tout seul? Non. Donc, notre communauté, elle doit s'exercer là, dans ce faire. Mais elle ne doit pas décider des faire avant que l'esprit ait soufflé. Et moi, je suis impatient de voir les trésors qu'il y a en chacun de nous pour qu'on les mette ensemble et qu'on y travaille ensemble, dans chacune de nos vies. Ce n'est pas une action collective extérieure de l'Église qui est la finalité, c'est mon action personnelle qui est soutenue par une communauté. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit changer, y compris dans peut-être notre besoin de nous rencontrer. On doit avoir ce besoin de nous rencontrer pour partager. Voilà, j'en ai assez dit. Donc maintenant, on va mettre des versets. Puis, si vous avez envie de vous mettre par petit groupe pour en parler, OK. Si vous voulez qu'on reste comme ça, OK. C'est vous qui décidez. L'important, c'est que vos bouches s'ouvrent et que vos interrogations s'ouvrent et que l'esprit souffle au travers de vous. Next. Alors, non, le premier, le acte 1-11. Alors, qui est-ce qui veut le lire? Qui c'est qui a amené une Bible? Acte 1-11, c'est un... Tu as trouvé? Ouais, c'est bon. Acte 1, verset 1 à 15, voilà. Alors, qui est-ce qui peut lire ça? C'est moi, après j'ai soif, il faut que je boive un coup.
Vas-y, c'est...
Ah non, c'est... tu mets de l'eau.
Ah non, mais il y en a là.
Non, mais c'est pas moi, à chaque fois je bois.
Bah ouais, c'est pas Alain, parce qu'il y en a marre d'Alain. Qui est-ce qui peut... Toi?
Allez, go.
1 à 11, hein.
1 à 15.
1 à 11 à 15.
1 à 15. Donc c'est le contexte, hein. Il va être décrit.
Alors, cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qui s'étaient choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. « C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. » Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Après ces quelques mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle Mont des Oliviers, située à un quart d'heure environ de Jérusalem, et rentrèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, frère de Jacques. D'un commun accord, ils se retrouvèrent souvent pour prier avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus.
Donc, je pose cette question, pourquoi ils se sont rassemblés dans cette pièce ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Attendre des instructions ou suivre des instructions ?
Oui. Oui, attendre et suivre des instructions. Voilà. Suivre ce que
j'ai... D'accord. OK. Pourquoi ils se sont mis dans cette pièce ? Pour être tous ensemble. Et qui est-ce qui... C'est assez intéressant. Tous ensemble, ça voulait dire qui ? Que les apôtres ? Ils étaient tous là. Qui c'était tous ? Qu'est-ce qui est écrit ? Les apôtres. Des disciples, des femmes, peut-être des enfants, hein, on ne sait pas. Dans tous les cas, ils étaient là tous. C'était une grande pièce hein, pour être 120. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc c'est la deuxième question que je pose. Est-ce qu'ils avaient une stratégie, des associations, une planification ? Est-ce qu'ils avaient tout ça ? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que ça a marché ? Ça a marché. Donc, qu'est-ce qui était important pour eux ? Qu'est-ce que vous comprenez qui était important pour eux ? Un commun accord. Oui, un commun accord. Ben moi, je pense qu'on est dans cette transition-là. C'est-à-dire qu'on veut des grandes choses, on veut qu'il se passe des bouleversements, mais il faut qu'on soit d'accord. Soit d'accord sur ce que c'est une famille, qu'on soit d'accord sur ce que c'est une famille en action, qu'on soit d'accord sur ce que l'Esprit veut faire en chacun de nous et quelle est la solidarité que l'on va exprimer sur les progrès, les projets de chacun de nous dans nos propres vies. Vous voyez, nous, on est un peu comme Nicodème, c'est-à-dire qu'on pose la question, qu'est-ce qu'on va faire ? Et si vous, on lit les versets d'après, il l'envoie balader, Jésus. Hein ? Volontairement, je les ai occultés. Mais on voit qu'il lui dit, mais t'es docteur d'Israël, mais t'y comprends rien du tout. Parce que tu veux faire. Laisse-moi faire. Et fais ce que moi, je vais faire au travers de toi. Et c'est important de se replacer sous la conduite de l'Esprit. L'Esprit, on va pas savoir exactement ce qu'il veut qu'on fasse. Et c'est à chacun de chercher ce que Dieu veut faire en soi, en soi-même. Avec moi-même, c'est moi qui suis l'Église. C'est pas le tabernacle. Le tabernacle, c'est le corps de Christ. Mais moi, l'Église, c'est moi. C'est pas ce bâtiment. Et ma vie, elle est importante. Dieu attend que ma vie produise le royaume de Dieu. Produise pas un culte, produise pas une activité religieuse, produise le royaume de Dieu. Je vais pas trop m'étendre. Je vais laisser le temps. Donc, vous voyez, on n'a pas l'habitude de parler. Vous n'avez rien à dire ?
Je me dis, les disciples, les apôtres, pendant 3 ans, ils étaient un peu dans cette situation où, en fait, ils ont appris à laisser Jésus faire. Je pense qu'ils avaient tout leur raisonnement, comme Nicodème au début. Et pendant 3 ans, ils ont dû apprendre à lâcher prise, en fait. Du coup, peut-être qu'à ce moment-là, quand Jésus s'en va, ils sont un peu entraînés. Ils se disent, ils ont dû se mettre d'accord. OK, je pense que c'est ça qu'on doit faire. On va juste, même si on ne comprend pas, on va juste faire ce qu'il dit. Ils vont dans la pièce, tout ça, ils attendent. Mais des fois, j'ai l'impression aussi, et c'est une question pour toi, pour tout le monde, que Jésus leur reproche aussi de ne rien faire. Par exemple, parfois ils les insultent, imbécile, incapable, machin. Pourquoi vous avez pas, pourquoi vous jeûnez pas, pourquoi vous vous endormez, pourquoi vous avez pas prié. Enfin, tu vois, ça fait longtemps que je suis avec vous et vous savez toujours pas tout ça. Du coup, moi ça me questionne sur OK, laisser Dieu faire. Et en même temps, des fois, on dirait qu'il nous demande aussi de prendre des initiatives et que et qu'il attend que ça en fait, qu'on se bouge aussi.
Bien sûr. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est monté au ciel ? Quelle était la réaction des apôtres ? et regarder au ciel. Et qu'est-ce qu'il a fallu que Dieu fasse pour qu'il se mette au boulot? Il y a un ange qui est venu, il a dit, qu'est-ce que vous foutez, quoi? En fait, ce que tu décris, c'est souvent le problème de cette forme-là. C'est-à-dire qu'on suit quelqu'un qui sait. Et il fallait qu'il se convertisse à « je suis celui qui doit faire ». Et nous, on a besoin de se convertir à « je suis celui qui doit agir ». C'est plus quelqu'un d'autre. Ils ont suivi Jésus, il y avait cet exemple, et quand Jésus est parti, je comprends qu'ils étaient un peu perdus. Et donc, nous, souvent, dans toutes nos prières, on demande à ce que ils redescendent, en fait. Sauf qu'il est en moi. Il ne va pas descendre dans mon talon. Il va rester en moi. Donc, c'est à nous d'installer le royaume de Dieu. Pas une religion, le royaume de Dieu. C'est-à-dire de servir ce monde. D'accord? Donc, la première des choses qui m'a frappé, c'est que pour moi, on est dans ce stade de la chambre haute. Il faut qu'on soit d'accord. Et qu'on soit d'accord à ce que l'esprit nous conduise dans des endroits où on n'a pas envie d'aller, dans des méthodes où on n'a pas l'habitude de faire, et qu'on soit prêt à l'accepter. Ça, c'est une décision personnelle. Personne ne peut la prendre à ma place. Donc, est-ce que moi, je décide oui ou est-ce que moi, je décide non? J'ai le droit. C'est que le Saint-Esprit, il agit jamais contre ma volonté. Donc, il n'y a aucune stratégie et communauté qui doit vous contraindre à agir contre votre volonté. Dieu veut votre cœur. On va passer à acte 2. Qui est-ce qui a gardé une Bible? Ou tu peux l'afficher, peut-être. Ce serait peut-être plus simple. Donc, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une notion de communauté qui était importante. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc, est-ce qu'ils ont décidé du jour, de l'heure? Est-ce que le Seigneur leur a... Est-ce qu'ils s'étaient dit, on attend une semaine, on attend 15 jours? Non. Verset suivant. Des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, elles se posèrent sur chacun d'eux. Pourquoi il n'y a pas eu un mouvement général qui a eu une adjonction du Saint-Esprit spécifique sur chaque personne? Pourquoi ça? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Oui, chacun est différent. Donc on peut avoir des opinions différentes, on peut avoir des désirs différents. C'est tout à fait normal, puisqu'on est un corps. L'important, c'est qu'on soit toujours dans un corps. Et comment ça s'est manifesté après? Enfin, on va voir après. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc ça, vous voyez, on dit, il y a un mouvement du Saint-Esprit, ok? Mais la flamme de feu, elle se manifeste différemment selon le besoin, l'appel, la destinée de chacun. Et ça doit, on doit le respecter. Et on doit aussi communier à ce que ça s'accomplisse en tant que communauté. Quand quelqu'un a un appel, une idée, quelque chose, la communauté doit le soutenir. C'est pas parce que moi, je me sens pas concerné que je fais pas partie de ce qu'il a besoin pour progresser, pour être encouragé, pour être corrigé, pour être tout ça. Donc la communauté, elle est là pour soutenir les diverses choses. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset suivant. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et furent stupéfaits que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Est-ce qu'on peut faire une petite analogie avec le fait que les flammes étaient sur chacun de manière différente, et qu'en fait, ils ont pu parler à X personnes qui ne parlaient pas. D'accord? Donc moi, dans mon appel spécifique, j'ai ce qu'il faut pour parler aux gens, vers qui Dieu m'envoie. Et certainement, quand il parlait le parthe, celui qui parlait en élamite, il ne comprenait pas ce que disait l'autre parthe. Donc on doit aussi accepter ça. C'est-à-dire que l'Esprit, il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il le veut, mais dans une communauté. Et donc, si moi, je me sens incapable, je pense que je peux parler à mon voisin. Je pense que je peux parler à mon collègue de travail. Je pense que je peux parler à tous ceux que Dieu va me mettre en contact, parce qu'il va me donner la bonne parole pour parler dans sa langue, c'est-à-dire dans ce qu'il a besoin pour ce qu'il a besoin d'entendre de Dieu, pour recevoir la parole de Dieu que je vais lui donner. Et ce qui est, souvent, on veut faire une uniformité. Mais le corps, c'est la diversité de fonctions dans un même but. Et le but qui donne aux animés, c'est le royaume de Dieu. Donc la question aujourd'hui que Dieu nous pose, me pose en tous les cas. Tu peux remettre le slide. On sait qu'il y a eu un grand effet. Il y a eu un grand effet de ce que chacun entendait parler dans sa propre langue. C'est-à-dire que l'effet, ça a été que je m'adresse personnellement d'une manière audible aux gens que Dieu me met sur mon chemin. Donc, croyons-nous que c'est possible? En fait, la vraie question, c'est ça. Oui. Oui ou non? On peut croire que c'était... Il y a des théories qui disent que c'était que pour cette époque-là. Donc, est-ce qu'on croit que c'est possible au fond de nous? Parce que si on croit que c'est possible, on va s'attendre à ce que ça se produise. Si on ne croit pas que c'est possible, on ne va pas s'attendre à ce que ça se produise. Parce que c'est la foi qui produit le royaume de Dieu. Donc, est-ce qu'on est d'accord que c'est possible? Donc, si on dit oui, attendez-vous à ce que ça se passe. Et qui est-ce qui gérait l'événement? Quelle était la structure qui gérait l'événement? C'était que le Saint-Esprit, t'es sûr? Voilà. Mais je pense que c'était un peu la pagaille, une pagaille sainte. C'est-à-dire qu'il y avait certainement, si on compte, et je crois 12, 13 langues qui parlaient en même temps, mais chacun entendait dans sa propre langue. Donc la diversité, c'est vraiment la marque du Saint-Esprit. On ne va pas rentrer tous dans le même moule, mais on va se soutenir les uns les autres. C'est pour ça que, quelque part, faire des organisations, c'est un peu restrictif parfois. Il faut laisser la liberté du Saint-Esprit à chacun, mais par contre, on doit être solidaire. D'accord? Quels sont les premiers effets décrits et qu'en déduire pour chacun de nous? Ça vous parle quoi à vous, ce passage de la Pentecôte? Tout le monde peut recevoir. Tout le monde peut exercer. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir reçu? Ils sont sortis. Voilà. Donc, tant que je ne sors pas, il ne se passe rien. Alors, sortir, ça veut dire parfois sortir de ma réserve, sortir de mon appréhension, sortir de mon confort, sortir de mes habitudes. Tant que je ne sors pas, il ne se passe rien. Et la communauté, elle est là pour m'encourager à sortir, peut-être m'accompagner. Quelle était la méthode de Jésus quand il a commencé à envoyer ses disciples? Il les a envoyés deux par deux. Deux par deux. Donc on doit se soutenir, on doit partager, parce que si Romuald ne me dit pas ce que Dieu lui met dans le cœur, je ne peux pas l'aider. Je suis sûr qu'il y a des choses. Donc il faut partager. La communion fraternelle est là. On ne peut pas être, quand on dit on veut une famille-église, on ne peut pas, si j'espère qu'il va y avoir plus de monde, on ne peut pas être proche avec tout le monde, mais on peut être proche avec certains. Vous savez, il y avait les 3, il y avait les 12, il y avait les 70. Donc à qui Dieu veut me joindre dans cette communauté? À qui Dieu veut me joindre dans cette communauté? À qui je peux ouvrir mon cœur? à qui je peux partager les projets de Dieu? Qui est-ce qui peut m'encourager? Qui est-ce qui, à côté de moi, peut me donner la main pour m'aider, me soutenir? La communauté, c'est ça. Ce n'est pas un rêve d'union sacrée où tout le monde s'aime, partage tout. Ça va se faire que si le Saint-Esprit nous apprend à être ensemble. Et nous, on voudrait sauter les étapes et être dans la suite d'acte 2, acte 6, mais il y a un préalable. Et quel était le contexte? Quel était le contexte historique, politique de cette époque-là? C'était l'occupation romaine. Et puis, c'est l'occupation romaine, c'était déjà pas marrant, parce que l'empereur c'était Dieu. Hein. Et puis, il y avait autre chose pour les juifs, l'opposition des juifs religieux. Donc, est-ce que c'était un contexte qui était plus facile que le nôtre aujourd'hui? Non. Donc, est-ce que la possibilité d'impossibilité dans notre être, elle est justifiée? Voilà. Et je pense que le Seigneur nous attend là, un petit peu, dans cette décision de dire, ben, je ne sais pas trop comment je vais faire, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais je décide de me mettre à ta disposition. Et je pense que si tous ensemble on s'entraîne dans ce mouvement-là, il va se passer quelque chose. Et je crois, moi, en plus, personnellement, ça que le Seigneur nous a ramené un petit nombre pour que cette communion, elle soit effective, démontrée, pratiquée. Et qu'à ce moment-là, on soit un vrai refuge pour les gens de l'extérieur que Dieu va nous envoyer. Donc on a aussi une responsabilité de se préparer pour la suite. D'accord? Ok? Tu peux passer celui d'après, puisqu'on a un petit peu de temps. Voilà, tu peux l'afficher aussi. J'ai un problème avec ce mot ministère. Ministère, c'est service. Hein? Si on recherche là, hein? c'était travail et service, hein, le mot ministère à l'origine. Donc, je vous encourage, donc, pas moi, parce que je ne suis pas prisonnier, mais j'espère, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. C'est-à-dire qu'il y a cette notion d'appel, elle n'est pas illusoire. Qui est-ce qui a un appel ici? Qui est-ce qui a un appel? Qui est-ce qui a un appel? Donc, est-ce que je réalise que je dois me conduire d'une manière digne de l'appel que j'ai reçu? C'est-à-dire que j'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité. C'est-à-dire que ce que Dieu a prévu de faire à travers moi, ben, c'est pas Alain qui va le faire. C'est même pas mon épouse. Elle peut le faire avec moi, mais si c'est mon appel, c'est mon appel. Si c'est son appel, elle doit rentrer dans son appel. Et ça veut dire quoi, d'après vous, vous conduire d'une manière digne? Ça veut dire quoi?
Sérieuse, oui.
C'est-à-dire? On pourrait dire ça autrement, peut-être? Pardon? À l'écoute du Saint-Esprit, oui, l'appel, de toute façon, c'est un don de l'Esprit. Et pour accomplir cet appel, Dieu m'a créé en parfaite harmonie avec l'appel qu'il m'a donné. Mais c'est un don de l'Esprit. Donc c'est le caractère. Hein, mais on appelle ça être à la hauteur. Est-ce que je suis à la hauteur? C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais dans ma vie pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre ce que Dieu a fait? Ou est-ce que je me contente de venir là le dimanche? Ou est-ce que c'est quelque chose de dynamique dans ma vie? Parce que Dieu m'a choisi, Dieu m'a élu, Dieu m'a envoyé, Dieu m'a équipé pour que je travaille. Moi, quand j'étais dans l'entreprise, si mes salariés venaient et ne travaillaient pas, il y avait un petit souci. Hein. Même si je leur disais ça d'une manière gentille, mais ça n'allait pas durer très longtemps. Donc il faut qu'on reçoive cet appel et qu'on se conduise d'une manière digne parce qu'on l'a reçu. Donc déjà, être conscient qu'on en a un. Et après, verset suivant. Et c'est marrant ça, parce qu'il parle d'une chose individuelle, et puis tout d'un coup il dit, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns des autres dans l'amour. Ça veut bien dire qu'il y a une interaction. Mon appel, je ne peux pas le réaliser tout seul. Je peux en faire, mais il sera beaucoup plus dynamique s'il est appuyé par une communauté. D'accord ? Donc cet amour, on est d'accord d'avoir ce concept, mais il doit se démontrer. Il doit se démontrer dans le soutien qu'on a les uns les autres, le partage et toutes ces choses-là. Suivant. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors, c'est quoi l'unité de l'esprit pour vous ? Ça veut dire quoi l'unité de l'esprit ? Avoir le même objectif. Donc, un objectif plutôt général. Donc, ça doit être quoi notre objectif ? C'est quoi notre objectif ? C'est le royaume. Donc, ce n'est pas une structure. On est bien d'accord. C'est le royaume. Donc si on a la préoccupation du royaume, on va discuter de quoi entre nous ? Ah, c'est pour ça qu'il faut le mettre à la retraite. Là. Voilà. Si c'est le sujet de notre préoccupation, on va naturellement le partager. Et si on le partage, on va pouvoir s'entraider. Et pourquoi le lien de la paix ? Parce qu'on n'aura pas tous la même opinion. Parce qu'on est dans un corps. Mais en tous les cas, moi je ne connais qu'en partie. Donc j'ai besoin de l'autre pour compléter ce que je sais. D'accord ? Donc, ce n'est pas une illusion, c'est un travail commun dans une même direction. D'accord ? Suivant. Voilà, il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelé une seule espérance par votre vocation. C'est-à-dire, votre vocation, ça veut dire que dans le travail que Dieu a prévu que je fasse pour aimer ce monde, ben, il m'est personnel, en fait. Avec mon affinité, avec, j'allais dire, mes émotions, avec mes compétences, avec tout ce que j'ai vécu, ma culture. Mais je fonctionne dans un corps. Et souvent, cet équilibre, on a un petit peu de mal. Surtout en France, on est très individualiste. On n'aime pas se découvrir. On a peur du jugement. On a peur du qu'en dira-t-on. On a peur de ne pas être à la hauteur. On a peur de tas de trucs. Mais la peur, est-ce que c'est une composante du royaume de Dieu ? Donc cette peur, il faut la jeter à la poubelle. Suivant. Je veux faire une étude biblique, c'est pas marrant. Hein. Mais je crois en la parole. Donc souvent, notre credo, je veux dire, il est subjectif. C'est-à-dire qu'on croit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Ça, on y croit. D'accord. Sauf que ça implique quelque chose dans mon rapport avec les autres. Nous, on a passé une semaine de vacances avec toute la famille, là. On était une seule famille, mais chacun faisait la cuisine comme il voulait. Vegan, végétarien, carnassier, peu importe. Mais on était quand même la famille. Donc, il n'y a pas d'uniformité. Mais les concepts, ils doivent se démontrer. S'ils ne se démontrent pas, ils ne servent à rien. C'est une illusion. Le suivant. Il est au-dessus de tous. Bon, un seul Dieu et Père, c'est le credo. Il agit à travers tous, Donc il n'y a pas de gens plus qualifiés que les autres. Et il habite en nous. Suivant. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Donc si c'est donné, quelles sont les aptitudes que j'ai eues pour recevoir ? Aucune. C'est bien. Merci. Aucune. Donc je n'ai pas à me glorifier de ce qu'on m'a donné. J'ai à le partager. Qu'est-ce que Jésus il a fait ? Est-ce qu'il a retenu quelque chose ? Non, il a donné sa vie. Donc nous, on donne. Suivant. Donc là, il va parler des ministères. Parce qu'il y a des dons particuliers qui sont au service. Ce n'est pas des qualifications supérieures à qui que ce soit. Suivant. Encore. Bon, ça on sait, il est descendu, il a évangélisé. Encore. Alors, c'est lui qui a donné. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. D'accord ? Donc il les a donnés. Donc s'il a donné quelque chose à ces personnes, est-ce que c'est pour elles ? Non, c'est pour les transmettre. Donc à partir du moment où ces ministères sont là, ça veut dire qu'ils sont là pour lever d'autres ministères, pour que nous, on puisse exercer ces ministères à l'extérieur. D'accord ? Continue. Pardon, je n'avais pas vu que tu avais passé l'autre. Excuse-moi. Avant. Le 12. Il l'a fait, pourquoi ? Pour former les saints. Qui c'est les saints ? Aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. C'est quoi le corps de Christ dans ce cas-là ? Est-ce que c'est que nous ? C'est tous ceux qui sont appelés dehors à rentrer. Donc ces ministères, ils sont là pour nous enseigner à comment les pratiquer à notre stade, à l'extérieur. Pour que ce corps de Christ qui est à l'extérieur, c'est que chaque personne que Dieu crée aujourd'hui, c'est pour le salut. Il en crée des millions tous les jours, mais c'est pour le salut. Donc c'est nous. Ce n'est pas la personne qui a le don du ministère, elle est là pour former les saints. Elle n'est pas là pour faire le boulot tout seul. Bien sûr qu'on peut les envoyer, on peut faire ça, mais déjà on devrait les soutenir peut-être d'une autre manière, plus communautaire. On devrait être plus concerné d'une manière communautaire. Et c'est pour que le corps de Christ, c'est-à-dire les gens de l'extérieur qui viennent, ils soient au bénéfice de ce que ces cinq ministères nous ont donné. Suivant. Jusqu'à quoi ? Alors, que nous parvenions tous à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça vous dit quoi, ça ? Pourquoi de nouveau il parle de l'unité ? Parce qu'on est un corps, oui. Qu'est-ce que Jésus a prié au Père en Jean 17 ? Sont tous un. Mais comme qui ? Comme nous, nous sommes un. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, est-ce que les fonctions du Père, du Fils, du Saint-Esprit étaient les mêmes ? Non. Mais est-ce qu'ils étaient d'accord ? Oui. Donc nous, on a toujours à rechercher, est-ce que ce que j'ai reçu, je le partage, je le donne ? Est-ce que ce que j'ai reçu est complet en moi ? Ben non. Donc est-ce que j'ai besoin de l'autre pour m'aider, pour m'enseigner ? Est-ce que j'ai besoin de ces ministères ? Ben oui. Pourquoi ? Parce que mon but, c'est la stature parfaite de Christ. Ben, elle n'est encore pas établie dans ma vie. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie qu'ensemble on change. Et qu'elles grandissent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? D'accord ? Donc, est-ce qu'on est prêt à payer quel prix pour ça? Tu peux repasser aux questions, s'il te plaît? Donc, on a répondu. Hein, donc, accomplir l'ordre de Matthieu 28, c'est ça notre job. Aller faire des nations des disciples. Jésus, il n'a pas dit aller faire des nations des évangélistes, ou des protestants, ou des catholiques, ou il a dit aller faire des nations des disciples. Et quand vous avez démontré que vous êtes un disciple qui amène le royaume, vous pouvez les baptiser et leur enseigner ce qu'il faut faire. Nous, souvent, on a mis l'évangélisation avant toute chose, avant le royaume de Dieu. Mais partout où on est, on peut établir le royaume de Dieu. Démontrer combien c'est bon. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est à nous de le faire. C'est à nous de décider. Oui, je suis d'accord pour le faire. Et même si je ne sais pas où il va m'envoyer, je ne sais pas ce qu'il va faire, je vais me mettre à sa disposition. Et je pense que plus on va progresser dans cette disposition, eh bien, plus Dieu va agir au milieu de nous. On a tous envie de voir des prodiges, des miracles, des choses comme ça. Mais est-ce qu'on met son réveil un quart d'heure plus tôt le matin ? Donc si c'est moi qui suis le saint, qui suis l'Église, est-ce que je vais aller chercher dans le corps ce qui me manque auprès de ceux qui ont reçu ce que je n'ai pas? Est-ce que je vais me faire épauler? Est-ce que je vais comprendre que je ne m'appartiens pas? Qu'est-ce qui s'est passé? On va parler certainement dans les semaines qui viennent de ces actes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est manifesté, mis à part la prédication de Pierre? Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Oui. 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 Mais pourquoi ils faisaient ça? On n'est pas en train de copier des choses. On est en train de réaliser ce que la nouvelle naissance produit en moi. C'est pas la peine d'essayer de copier des modèles. Qu'est-ce que la nouvelle naissance produit en moi? Donc, est-ce que je la cherche? Est-ce que je demande au Seigneur de me changer, de m'ouvrir à sa réalité? En fait, c'était quoi le truc qu'ils avaient bien compris? Non, oui, après. Ça, c'est des conséquences. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais pourquoi?
Parce qu'ils savaient que Dieu se manifestait à ce moment-là.
Ah, c'est même plus simple que ça encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est crucifié. Pendant 3 jours, il est mort. Après, qu'est-ce qui se passe? Il ressuscite pendant combien de jours? 40 jours. Pendant 40 jours, Jésus se manifeste. Il se manifeste même à ceux qui n'avaient pas cru, comme Thomas. Il se manifeste aux gens. Se manifeste. Donc, ils étaient persuadés que Jésus était ressuscité, oui ou non? Est-ce qu'on est persuadé que Jésus est ressuscité, oui ou non? À partir de ce moment-là, ils ont bien compris que leur vie ne leur appartenait pas. Donc, c'était facile de pratiquer la communauté. Donc, moi, je vais simplement prier avant la Sainte Cène pour que cette réalité du Christ ressuscité, qui peut-être vous paraît une base archi connue, eh bien, elle se réveille, comme on l'a chanté, réveille-nous. Mais elle se réveille en moi pour que ma vie, elle ne m'appartienne pas. C'est-à-dire tous les freins de ma vie qui m'empêchent d'agir, d'écouter le Saint-Esprit quand il me parle, ou d'avoir même envie d'agir dans ma vie quotidienne, eh bien, ils soient, effacés par cette réalité du Christ ressuscité en moi. Parce qu'en fait, il ne faut pas chercher à faire les choses comme Nicodème l'a dit. Non, il faut chercher simplement à comprendre ce que Dieu veut de ma vie. Parce que je suis tellement important pour Dieu qu'il est venu habiter en moi et qu'à cause de ça, ma vie, elle ne m'appartient pas. Donc, je n'ai plus la liberté. C'est ça aussi de se conduire d'une manière digne de l'appel. C'est que je n'ai plus cette pseudo-liberté de gaspiller le temps de ma vie à faire autre chose. Donc, est-ce que je veux rentrer là-dedans? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas un chemin facile, c'est un chemin de croix. Parce qu'il va falloir qu'on meure à certaines choses, à certaines habitudes, à certaines choses. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on prie pour ça? Bien sûr.
Alors moi j'aime trop le fait que, ministère ça veut dire service, je pense que du coup le fait qu'on soit responsable, c'est aussi responsable de tous ces gens qui sont au bénéfice de notre ministère. C'est pas au sens culpabilité, t'as pas fait ça pour eux, mais en tout cas on est responsable de ce qu'on va leur donner aussi. Donc oui, dans un sens c'est très sérieux quoi. Si je donne pas la parole que j'ai reçue, je fais de la rétention de bénédiction en fait. Et l'autre truc auquel je pensais, qui me parle beaucoup, c'est accepter qu'on soit différent. En fait, c'est difficile parce qu'on ne peut pas s'empêcher en fait, d'être dérangé par le fait que les autres ils soient trop différents parfois. Marise, elle a un style de vie très différent de moi. C'est dur, mais il faut que j'accepte que Dieu bénit des gens au travers de son style de vie. Si je suis dérangée parce que Pierre-Emmanuel il va au Hellfest, je veux dire, il faut que je lâche aussi les autres dans leur créneau, même si c'est différent du mien, et que je sois ouverte à la différence, et je pense que ça coûte. Et alors, soit déjà, c'est dur de se sentir acceptée. Moi, je me sens différente, par exemple, dans mon créneau, artistique, ou une partie militante de ma vie, ou des choses comme ça. Mais voilà, j'ai envie que vous m'acceptiez comme ça, de la même manière que moi, je dois faire ce travail aussi d'accepter les autres dans leurs différences, et de les libérer aussi, pour qu'eux parlent la langue de quelqu'un que moi, je ne peux pas toucher.
Merci. D'autres... Il faudra qu'on apprenne à un peu plus parler, mais ça va venir.
Oui, moi je voulais dire aussi que quand François nous dit qu'on va devoir renoncer à des choses, tout ça, ça peut faire peur, dire « Oh là là, est-ce que je vais être capable de renoncer, tout ça, est-ce que je vais en avoir la force ?» Mais il faut être conscient que si nous, on dit juste oui, on fait ce petit pas, Seigneur, il fait les 99 autres, il va nous donner la force de le faire. Donc il ne faut pas qu'on soit effrayé, voilà. Hein, nous, on a juste à dire oui, et Seigneur, fais-le. Mais qu'on soit d'accord, c'est tout. Hein, ne pas croire qu'on va avoir tout le travail, que ça va être impossible.
Non, ce n'était pas ça. Si je veux prier, c'est pour que ce soit... En fait, c'est l'Esprit qui fait les choses en nous par une nouvelle naissance. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est comme quand on s'est converti, tout d'un coup, ça nous a paru vrai, que Jésus-Christ était mort pour nos péchés. Alors que peut-être la veille... Donc, dans ce que Dieu va nous demander, ça va être la même chose. Il va nous donner une révélation par l'Esprit qui va nous... On va dire, ouais, ça, c'est ça que je dois faire, c'est vrai. C'est pas plus compliqué que ça. Mais en chemin, forcément, il y aura des choix à faire pour que ça s'accomplisse. On va pas dire que la vie chrétienne, c'est juste... pas un long fleuve tranquille. C'est un combat contre notre chair. D'abord. Surtout quand on a mon âge et qu'on a plein de mauvaises habitudes. Donc c'est un combat contre notre chair. Donc il faut l'accepter aussi. Donc forcément, il y aura des moments où il faudra décider de. Et ça, le Saint-Esprit, même s'il nous a convaincus, il nous laisse la liberté toujours de dire oui ou de dire non. C'est à nous de dire oui. Voilà, j'ai assez dit pour aujourd'hui. Seigneur, on va se mettre devant ta face et on va communier à ton corps et à ton sang. Et Seigneur, je te prie vraiment que ensemble on puisse simplement te dire j'ai peut-être pas tout compris, je sais pas trop, dans tous les cas, je veux que Saint-Esprit, tu m'attrapes et tu m'emmènes là où tu veux. Je veux te dire oui ce matin. Je veux te dire oui devant ce sacrifice que tu as fait pour moi. Hier, tu m'as racheté par ton sang, tu as donné ton corps, tu as souffert pour moi. Et moi, souvent, je reprends ce que tu as racheté. Alors Seigneur, ce matin, tous ensemble, on veut simplement te dire, tu m'as racheté, alors je t'appartiens. Et tous ensemble, on veut rentrer pour faire ta volonté. On veut dire non, le temps n'est pas difficile, le temps est opportun. C'est le temps. Et on veut rentrer dans cette transformation, devenir des familles en action, devenir des gens qui amènent le royaume de Dieu, qui cherchent à comprendre, qui cherchent à savoir quelle est ta volonté. Et on ne veut pas te faire descendre du ciel. On veut que ce soit ta volonté en nous qui vienne sur la terre. Elle est en nous. Elle est en chacun de nous. Alors je te prie, Jésus, de briser les frontières, les barrières, les barricades, les hauteurs, les raisonnements, tout ce qui infirme cette vérité. Tu vis en nous, tu es ressuscité et tu crois que nous sommes la solution pour ce monde dans ce temps. Alors je bénis mes frères et sœurs et je te prie que ta parole fasse son effet. Que Saint-Esprit, c'est toi qui convainc, c'est toi qui conduis dans la vérité, c'est toi qui produis la vie. Alors je sais que je peux compter sur toi. Amen.
Ah. Oui. Ouais, je veux dire, évidemment, on abonde pleinement tout ce qu'on a partagé. Moi, je voudrais juste rajouter un point qui est un important. Vous savez, avec les étudiants, avec le fait de suivre des personnes, il y a un point qui est récurrent. C'est le fait de ne pas avoir intégré tout est accompli dans ma vie. Et comment je l'intègre ? Je l'intègre finalement en rentrant dans la réalité de ce que le Père produit dans ma vie. L'accomplissement de Christ, le choix de Christ, m'amène finalement, amène immédiatement à ce que l'Esprit soit en moi, c'était partagé, mais pas simplement en moi. Je suis appelé à être le tabernacle. C'est-à-dire qu'il ne prendra la place que je lui donnerai. Il ne rentrera que par les portes que j'ouvrirai. Donc, c'est pour ça souvent on demande à l'Esprit de venir. Non, je n'ai pas besoin de dire à venir. J'ai besoin à moi d'ouvrir les portes afin qu'il puisse être pleinement en action dans tout mon être, corps, esprit, âme et corps. Et cette réalité, c'est une réalité de connexion d'esprit-esprit qui va amener finalement le rétablissement de la paix, de la justice dans tout mon être. La deuxième chose, c'est ça qui est aussi qui est extraordinaire, c'est que il a mis aussi le Fils en moi, qui trône où ? Qui va trôner sur mon cœur, le siège des décisions. Ne jamais oublier que le trône, il est directement connecté, il appartient, j'irais, à notre Dieu. Dieu trône parce qu'il est aussi le trône. Donc il y a quelque chose qui vient en moi, qui vient s'établir en moi. Et je veux dire que, est-ce que ça s'arrête là ? Non. Parce que dans cette nouvelle naissance, c'est la Trinité qui est en action. Et le Père est là, et c'est le Père qui va produire à travers son Esprit, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Père et du Fils, l'Esprit de vérité qui me conduit dans toute la vérité. Et la vérité est en moi, puisque c'est le Fils. Et le Fils, je suis conduit à vivre cette réalité d'être le Fils en tant que fils, ou d'être le Fils en tant que fille. Et naturellement, je vais produire ce que le Père fait, travailler où le Père fait, et je vais produire ce que le Père me demande de faire, à cause de l'obéissance de Jésus. Donc, tout cela, je veux dire, il y a quelque chose que nous devons vraiment prendre en considération, c'est comment je vais travailler pour donner cette liberté. Et ce travail ne peut être que le fruit de l'amour. C'est l'amour que j'ai manifesté à l'œuvre de la croix. C'est l'amour que j'ai manifesté à la réalité de ce que le Père, le Fils et l'Esprit aient décidé de produire, que l'Esprit soit dans tout le tabernacle qu'est mon être et que le Fils puisse régner sur mon siège de décision et que le Père puisse communiquer sa volonté à travers l'Esprit et la faisabilité à travers le Fils. Voilà, donc rentrons bien dans cette dimension-là et reconnaître, bien entendu, comme l'a dit François, que je ne peux pas faire plus que ce que, que ce que Dieu m'a donné à faire. Et que pour faire autre chose, eh bien, il faut que je rentre dans cette économie de Dieu, de pouvoir travailler avec l'autre, de le recevoir, et ensemble de faire cette chaîne, hein, du donner et recevoir, pour pouvoir produire la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu, qui ne se fera jamais sans la Trinité. Jamais sans la Trinité. Donc je dois vivre cette Trinité, c'est-à-dire apprendre à vivre cette Trinité au quotidien et de travailler, je dirais, bien sûr, dans